B, la voix de la diversité. Radio de la paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Jean-Claude Mabéa.
Bonjour et bienvenue à tous à la une de cette première édition de l'actualité de ce vendredi 26 avril 2024. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé une aide à la Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme qui devrait être validée la semaine prochaine. C'était à l'issue d'une rencontre qu'il a eue hier jeudi avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Vous les entendrez en début de ce journal. Le secrétaire exécutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, était face à la presse hier jeudi au siège du parti à Abidjan-Cocody pour aborder des questions d'actualité nationale et continentale. L'actualité africaine nous conduira ensuite au Burkina Faso où Human Rights Watch accuse l'armée d'avoir exécuté au moins 223 civils. Et puis après la revue des titres de Jean-Claude Comé, Jean-Mélène Bitty recevra le président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, Kone Vazmana, pour parler des propositions de la société civile sur la réforme du code minier ivoirien de 2014 dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà pour l'essentiel. En Côte d'Ivoire, en visite donc en Côte d'Ivoire, le président du Conseil européen a eu une séance de travail avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, hier jeudi au palais de la présidence. Les questions de développement économique et de sécurité ont constitué l'essentiel des échanges. On écoute là-dessus le président Alassane Ouattara au sortir des échanges.
Monsieur le Président, nous venons d'avoir un entretien dense et excellent, couvrant quasiment non seulement la situation nationale en Côte d'Ivoire, la situation au niveau du continent africain et la situation internationale. Et donc, nous avons pu échanger sur des sujets d'intérêt commun. Au nom de ces sujets figure bien évidemment la nécessité de maintenir et de renforcer la vitalité de la coopération économique, les questions liées à la migration illégale et la nécessité de renforcer nos mécanismes et dispositifs de lutte contre la migration clandestine. Nous avons exposé tout ce que nous faisons dans ce domaine au niveau de la région et bien au-delà, et surtout en essayant de régler le problème des faux papiers et de traquer les passeurs. Nous avons également abordé l'importante question de la lutte contre le changement climatique et aussi la lutte contre le terrorisme. Alors sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville que vous avez visité hier.
À son tour, le président du Conseil européen a salué la convergence de vues et d'actions entre la Côte d'Ivoire et son institution dans la plupart des secteurs de coopération. Charles Michel.
Quelques points du côté européen, on apprécie sincèrement. Nos relations bilatérales sont fondées sur deux principes essentiels, le respect et la confiance. Il y a la volonté de partager un agenda commun, des priorités communes dans le domaine du changement climatique et des défis qui en découlent, que ce soit les défis liés à la situation énergétique, les défis liés à la forestation ou la déforestation, avec un secteur extrêmement important qui nous rapproche le secteur du cacao, puisque nous sommes, l'Union européenne, un partenaire commercial et économique au-delà de ce secteur, mais y compris dans ce secteur également. Et merci pour la bonne coopération afin de progresser, afin de veiller aussi à ce que des investisseurs privés puissent jouir d'une situation macro-financière et macro-économique qui est stable, qui est positive, qui est favorable. Et merci pour les efforts qui sont faits en termes de travail pour garantir de la stabilité, de la sécurité juridique. On a pu aborder de manière très opérationnelle la coopération pour traiter ensemble un sujet d'intérêt commun qui est la question de la mobilité. mobilité et la question de la migration. Et je pense qu'on a un intérêt commun à faire en sorte que ce soit les responsables politiques africains et européens ensemble qui décident qui est en situation de pouvoir aller du côté européen ou inversement. Il faut donc offrir des canaux de migration légale et être mobilisés ensemble contre les groupes criminels qui exploitent le malheur, le désespoir, la misère de manière cynique.
Les propos du président du Conseil européen Charles Michel et ceux du président ivoirien Alassane Ouattara ont été recueillis au micro Radio de la Paix de Junior Cardin. On s'intéresse maintenant à l'avis des partis politiques. Je le disais en titre, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, était face à la presse hier jeudi à son siège à Abidjan-Cocody. Cette tribune d'échange était l'occasion pour Ibrahim Cissé Bakongo de se prononcer sur l'actualité nationale et africaine. On fait le point avec Linda Balier.
Passons en revue l'actualité sociopolitique internationale. Le secrétaire exécutif du RHDP a félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal. Et s'intéressant à celle de la Côte d'Ivoire, notamment la réinscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Cissé Bakongo répond ceci.
À ce jour, il est évident pour tous que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame qui est candidat et qui ne l'est pas. Sur la question de l'éligibilité des uns et des autres, nous n'allons donc pas nous substituer aux organes compétents. Ce que nous pouvons faire, par contre, est que nous avons déjà faire, c'est de prendre des dispositions eu égard à la réalité actuelle ainsi qu'aux conséquences des décisions de justice.
Sur le retour de Guillaume Soro, le RHDP qui salue sa récente initiative fait cette invitation.
Nous encourageons l'ex-président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume et son entourage à poursuivre leurs efforts de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale, aussi bien par des appels mais également par des déclarations qui vont donc dans le sens de la réconciliation.
L'élection présidentielle de 2025 se prépare dès maintenant. Selon le RHDP, pour qui son candidat Alassane Ouattara gagnera l'élection sans embâge, d'où le renouvellement de ses instances.
L'objectif de ce renouvellement réside dans notre volonté de maintenir son dynamisme et de mettre notre parti en ordre de bataille. L'objectif à terme est de réussir la prochaine révision de la liste électorale et de gagner l'élection présidentielle de 2025 au premier tour, avec un score sans appel.
Le RHDP a cependant assuré au PDCI sa solidarité, sa présence à toutes les étapes des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié.
L'actualité nationale, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui a eu lieu hier, jeudi 25 avril 2024. En Côte d'Ivoire, les festivités officielles se sont déroulées le mardi 24 avril 2024 à la sous-préfecture de Bouaké. Le thème retenu pour cette 17e édition est « Renforcer le traitement dans l'équité et le genre ». Pour cette commémoration, le gouvernement ivoirien et ses partenaires ont mis l'accent sur les actions pour faire obstacle à l'équité sanitaire. On fait le point avec Paul-Bénédicte Boulou.
Il est à ce jour important de porter un regard sur les inégalités en matière de santé. Docteur Fatim Tall, chef de bureau de l'OMS au nom des partenaires.
Dans le contexte spécifique des maladies à transmission vectorielle, lorsque les inégalités sont associées à la résistance aux médicaments et aux insecticides, à la fragilité des systèmes de santé, la santé des personnes les plus vulnérables s'en trouve davantage compromise et les efforts déployés pour franchir la dernière étape du processus d'élimination du paludisme entravé. Voilà pourquoi pour cette édition 2024, l'OMS et d'autres partenaires mettront l'accent sur les actions nécessaires à l'égalité des genres et aux droits humains dans la riposte au paludisme en Afrique et partout dans le monde.
Le paludisme demeure un problème de santé publique. Professeur Soro Kountele Gona, conseiller du ministre de la Santé.
Les données épidémiologiques révèlent une augmentation de l'incidence et les décès avec respectivement 249 millions de cas de maladies de paludisme et 608 000 cas de décès. En Afrique, l'incidence du paludisme reste élevée à 233 millions et 580 000 cas de décès. Les enfants de moins de 5 ans demeurent les premières victimes avec 80% des cas de décès. En Côte d'Ivoire, la situation du paludisme demeure préoccupante pour le gouvernement.
Notons que pour cette année 2024, la Côte d'Ivoire a introduit le vaccin contre le paludisme chez les nourrissons dans le PEV.
Paul-Bénédicte Eboulou, toujours en santé suite à la décision de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique relative à la suspension de la fabrication et de la commercialisation de produits à toté original 100% naturel et la paix Konyomuso Yako, le collectif des employés et revendeurs de ces deux entreprises susmentionnées, ont rencontré le préfet de la région du Poro et préfet du département de Korogo, André Ekbono Assoumou. L'objectif, c'était de demander l'implication du préfet des régions en vue de la levée de la mesure. Notre confrère Tommy Corona s'est glissé parmi les membres du collectif. Écoutons son compte-rendu.
En sa qualité de porte-parole du collectif des employés et revendeurs des entreprises Atoté et Konyomuso Yako, Dame Ouattarawa lance un cri du cœur.
Vraiment, on n'a pas de métier à faire. Surtout moi-même, je suis une mère célibataire. Mes enfants sont à ma portée. C'est là que je me débrouille pour pouvoir avancer la scolarisation de mes enfants. Donc, à la fermeture de ce coin, vraiment, ça ne nous arrange pas. Surtout moi-même, ça ne m'arrange pas.
Koulibaly Nanguin, imprimeur de son état, dit ne pas comprendre la décision et pour cause.
Nous n'exercions pas dans l'illégalité. Atoté est l'un des rares tradis praticiens qui avait toute la documentation en sa possession. Il exerçait au vu et au su de tous. Nous avons même été décorés par le chef de l'état de ce pays. Alors du jour au lendemain, quand on jette le discrédit sur notre produit, on se pose des questions. C'est toute la crédibilité même de nos institutions qui est remise en cause. Et donc nous en appelons aux autorités pour qu'on revoie cela.
Le jeune étudiant Silué Niviga Dama en appelle à la bonne compréhension des autorités, d'autant plus que 2023 avait été décrété année de la jeunesse.
Donc nous demandons une doléance au gouvernement de la Côte d'Ivoire, qu'ils aient pitié de cette jeunesse qui pense à la jeunesse de Korogo. Donc nous demandons une doléance à nos papas, en tant que le président, qui ait pitié vraiment de nous.
Le préfet André Ekbono Assoumou dit avoir pris bonne note et transmettra à qui de droit. Tommy Corona, Korogo, pour Radio de la Paix.
Plus de 1600 jeunes acteurs du monde du transport artisanal, communément appelé Baka ou Woroworo, ont reçu leur parchemin de fin de formation dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan Pemua le mercredi 24 avril dernier, lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports Amadou Koné. Ce projet de formation vise à la professionnalisation des acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Les détails avec vous, Jean-Mélène Bitti.
Pour Meïté Bouaké, directeur général de la Soutra, cette formation, en plus d'être bénéfique pour les chauffeurs, elle l'est aussi pour son institution.
Nos formateurs à l'Institut Soutra bénéficient des modules qui n'étaient pas enseignés à la Soutra. Merci à tous les partenaires pour cette opportunité que vous donnez à la Soutra.
Sur le contenu de ce projet, Kwaku Kwaku Romain, directeur général de la MUGA.
On assure la formation, mais en même temps, on va aider les transporteurs à renouveler leur parc automobile. Et aussi, on va essayer de créer des pôles d'échange juridiques et gardes humaines pour leur permettre de travailler convenablement.
Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil des patronats des entreprises du transport routier, a au nom des récipiendaires pris un engagement.
Ce que nous pouvons vous garantir, au nom de cette jeunesse, nous nous engageons à vos côtés, à tout mettre en œuvre pour que sur les routes ivoiriennes, nous puissions avoir des jeunes Ivoiriens qui ont de bons comportements.
Lors de cette cérémonie, Amadou Koné a donné quelques chiffres concernant les décès des chauffeurs liés aux accidents de la route.
Il y a 782 chauffeurs qui ont été tués dans les accidents de la route de 2020 à fin 2023. C'est pour cela que je me réjouis de ce que dans cette formation, il y a un aspect important qui est lié au respect du code de la route.
Au responsable de la MUGA, le ministre des Transports demande ceci.
Je demande à la MUGA de faire en sorte qu'il y ait dans le suivi de ce qui est fait, des formations, des mises à niveau sur les outils modernes de gestion des entreprises de transport.
C'est près de 5500 jeunes qui seront formés dans le cadre de ce projet.
Dans l'actualité africaine, Human Rights Watch a accusé les forces armées du Burkina Faso aux prises avec les groupes armés terroristes d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants, lors de deux attaques dans le nord du pays. Dans un rapport publié jeudi, sollicité par l'agence France Presse, les autorités burkinabées n'ont pas immédiatement réagi à ce rapport. Les auteurs de l'enquête disent avoir interrogé 23 personnes par téléphone, dont 14 14 témoins des tueries et vérifié des vidéos et des photos partagées par des survivants. On enchaîne avec la revue des titres des journaux qui est assurée aujourd'hui par Jean-Claude Comé. Bonjour Comé.
Bonjour Jean-Claude Mabéa, bonjour à tous. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne passent en revue leurs relations et cela à l'occasion des échanges hier entre le président du Conseil européen en visite en Côte d'Ivoire et le président ivoirien. Le Patriote rapporte à ce propos qu'Alassane Ouattara et Charles Michel se sont félicités de la vitalité de cette coopération. Occasion, signale le matin, pour le président Alassane Ouattara de dire merci à l'UE pour le soutien à l'Académie de lutte contre le terrorisme basée en Côte d'Ivoire et aussi pour Charles Michel de réaffirmer le soutien de son organisation à la Côte d'Ivoire. Au-delà des relations bilatérales, Fraternité Matin note aussi une totale convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sur des sujets comme le terrorisme, les guerres en Ukraine et Gaza. En ce qui concerne la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, ce sont les déclarations hier du secrétaire exécutif du RHDP qui marquent l'actualité et qui fait la une de la plupart des quotidiens comme Notre Voix et qui relaie cette déclaration de Cissé Ibrahim Bakongo qui affirme qu'à la Alassane Ouattara sera candidat en 2025. Et l'objectif de son parti, c'est gagner avec Ouattara au premier tour, avec un score sans appel. Relais le matin. Fraternité Matin affiche que Cissé Bakongo dit ses vérités et se prononce sur le Kasoro. Et en une du confrère Le Patriote, il prévient en ces termes: personne ne peut choisir notre candidat à notre place. Mais ayant fait cette déclaration, il n'hésite pas à se prononcer aussi sur la situation de l'un des leaders de l'opposition, notamment Laurent Gbagbo, président du PPACI. Pour Cissé Bakongo, l'absence de Gbagbo sur le fichier électoral est un problème de justice, peut-on lire en une de l'Avenir. Autre acteur dont il a été question, c'est Blé Goudé, qui selon les dires de Cissé Bakongo, cité donc par Soir Info, est avec eux tous les jours, au propre comme au figuré. Ces propos de Bakongo sont aussi à lire en une de l'Inter, qui comme en réponse à cette déclaration de Bakongo, rapporte aussi celle d'Assouadou et qui est cadre du PPACI, qui confirme qu'à partir du 10 mai, le candidat de leur parti, le PPACI donc, à la présidentielle, c'est Gbagbo. Point final, ce sont ces dires. Autre fait marquant de l'actualité traité par la presse, c'est l'arrestation il y a quelques jours du maire de Bangolo. Et selon Notre Voix, c'est la stupeur à Luvukosi, la fêtière des mairies. Arrestation du maire de Bangolo, Daopolin, qui est le président de Luvukosi, et son organisation appelle au calme, c'est ce qu'écrit le Rassemblement. Merci.
Merci à vous Jean-Claude Comé. Je rappelle que vous reviendrez vers la fin de l'édition de 8h pour le même exercice. Nous arrivons maintenant à l'invité de la rédaction et notre invité de ce jour est Kone Vazumana. Il est le président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, une plateforme des organisations de la société civile ivoirienne pour la bonne gouvernance des ressources du secteur minier. Avec notre invité, nous reviendrons sur les propositions sur la société civile ivoirienne sur la réforme du code minier ivoirien de 2014. Kone Vazumana est interrogé par Jean-Mélène Bitti.
Kone Vazumana, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les principaux objectifs de la réforme du code minier 2014?
Cela fait maintenant 10 ans que ce code minier de 2014 est mis en application et adopté et promulgué. Donc, après ces 10 années de mise en œuvre, le gouvernement envisage de réformer au regard de ses insuffisances. Et au niveau des insuffisances, aujourd'hui, le gouvernement, en termes d'objectifs, voudrait un code minier qui prenne en compte l'intérêt de toutes les parties prenantes, dont la société civile, les communautés qui sont également impactées par les activités d'extraction minière. Il y a un certain nombre d'axes qui ont été identifiés au niveau des axes sociaux, des axes environnementaux et les axes économiques qui guident et qui guideront bien sûr cette nouvelle réforme.
Comment la réforme vise-t-elle à améliorer la transparence dans le secteur minier?
C'est là toute la question que nous tous nous devrions nous poser et c'est la même question que la société civile s'est posée. C'est pourquoi d'ailleurs la société civile depuis toutes ces années a mené des actions auprès des communautés, a fait des actions de consultation et même a conduit des projets de développement local en contact permanent avec ces acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont des acteurs qui sont des décideurs pour pouvoir mener une bonne réforme du code minier en Côte d'Ivoire.
Alors pour cette réforme-là, est-ce que il y a une part belle qui est faite aux communautés locales pour qu'elles bénéficient des activités minières?
Quand on veut travailler pour quelqu'un, il faut d'abord faire en sorte que la personne reste en vie, qu'on réunisse toutes les conditions pour permettre à cette personne, bien sûr, de s'épanouir. Et les communautés aujourd'hui sont une partie importante pour lesquelles les gouvernants développent des actions de développement en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Donc la société civile, en fait, est l'interface et permet aujourd'hui d'assurer une garantie de la prise en compte de leurs préoccupations et tout ce qui peut améliorer durablement leurs conditions de vie.
Alors justement, ces populations-là font partie de l'environnement de ces sociétés minières, qu'elles soient industrielles, semi-industrielles ou artisanales. Comment la réforme prend-elle en compte la protection de l'environnement et le développement durable?
C'est là le gros souci de la société civile, parce que nous avons constaté beaucoup de faiblesses en termes de protection de l'environnement et qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Le code minier a été adopté en 2014. Et la Côte d'Ivoire a renforcé ses engagements climatiques en 2015 avec l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire a décidé dans sa politique forestière restaurer 20% de son couvert forestier dégradé à l'horizon 2030. Donc au regard de ces engagements que la Côte d'Ivoire prend vis-à-vis de l'environnement et également du développement durable, la société civile à son niveau travaille à cela, a également mis dans ses propositions que ces engagements soient respectés dans le nouveau code qui va venir pour mieux garantir la protection de l'environnement et les droits environnementaux des communautés locales.
En termes de défis, quels sont les potentiels défis à la mise en œuvre de cette réforme?
Le premier grand défi, c'est d'amener toutes les parties prenantes qui ont des intérêts divergents ensemble et les engager sur le processus, de telle sorte que nous ayons un code minier adapté à la réalité du terrain et à l'implication des parties prenantes. L'autre défi, c'est le respect des engagements climatiques de la Côte d'Ivoire. Comment allons-nous faire en sorte pour concilier l'exploitation minière avec la protection de l'environnement? L'autre grand défi, c'est les droits humains. On a l'insécurité qui est souvent occasionnée par l'exploitation minière. On a l'extrémisme violent. Et comment nous allons faire face à relever les défis de la sécurité sur le plan national et également international face à l'extrémisme violent? Prendre en compte cette population impactée par les exploitations minières, puisque l'exploitation minière crée souvent la délocalisation des villages qui vont impacter d'autres villages. Donc ces communautés-là, elles perdent leurs terres. Et l'autre défi qui est assez important, c'est comment on va fermer les mines et comment on va les réhabiliter. Et quand on parle de réhabilitation des sites miniers, il ne s'agit pas d'aller fermer le trou, mais c'est tout un système qu'il faut prendre en compte, dont la réhabilitation communautaire qui tient beaucoup à cœur à la société civile.
Alors, Kone Vazoumana, je vous remercie.
Merci et merci à toute la rédaction de Radio La Paix.
Merci à vous, Monsieur Kone Vazoumana. Il était l'invité de la rédaction de ce vendredi. Il est président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif de Côte d'Ivoire. Il répondait aux questions de Jean-Mélène Bitti, entretien que vous pourriez réécouter dans l'édition de 12h. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. Le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite en Côte d'Ivoire, a annoncé hier jeudi à Abidjan une aide à la Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme qui devait être validée la semaine prochaine. C'était à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous les avez entendus tous les deux en début de ce journal. Le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, était face à la presse hier jeudi au siège du parti à Abidjan-Koukoudi pour aborder des questions d'actualité nationale et continentale. Et enfin, Human Rights Watch accuse l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 8h pour un nouveau point sur l'actualité.